Vous êtes chef d'entreprise artisanale ou conjoint de chef d'entreprise artisanale et vous êtes non salarié? Vous avez besoin d'un accompagnement financier pour suivre une formation qui vous est nécessaire? Retrouvez toutes les informations utiles sur le site fafcea.com.
Vous écoutez
RMC. RMC, les grandes gueules du sport, 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
10h09, on est de retour dans le studio RMC pour les grandes gueules du sport. Votre émission le samedi, le dimanche de 9h à midi. Si vous avez raté la première heure, n'hésitez pas à aller nous télécharger en podcast. Nous avons évoqué la crise chez Ferrari également. Forcément, le 15 de France, ce tournoi est-il une réussite? Et puis, vous verrez aussi que l'on m'a violenté dans cette émission. C'était signé Christophe Cessieux, Wilfried Templier. C'est déjà en ligne sur les réseaux sociaux. Évidemment, une plainte sera peut-être déposée dans les heures à venir. En tout cas, j'en parlerai à ma direction et vous allez voir, ça va chauffer. Peut-être que j'aurai la peau de Christophe Cessieux. C'est peut-être ma seule façon de la voir. Comme ça, je pourrai récupérer tous ces podcasts. Christophe Cessieux avec nous, Renaud Longuèvre,
et moi,
Marie.
On va me filer le podcast golf.
Marie Dillon et Pascal Duprat. Dans quelques instants, nous allons passer la seconde autour des putschs au sein de nos équipes de France. Après les filles en foot, les hommes en biathlon en fin de semaine, la République des joueurs. Nage-t-on en plein délire? Ce sera la question que je vous poserai. 10h30, un homme heureux, Pierre Amiche, adore jouer au nouveau jeu du 15 de France. Où est Bernard? Où est Bernard Laporte, évidemment? On en parlera à partir de 10h30. Et puis 11h, le bras de fer des GG avant le premier rassemblement de l'équipe de France demain. Depuis la Coupe du Monde, Mbappé, capitaine. Êtes-vous pour ou contre les GG? Ce sera un 2 contre 2. On débute cette nouvelle heure avec cette citation de Raymond Devos, le génie, qui a dit un jour « J'adore être pris en flagrant délire ».
RMC.
Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Ah non, lui croyait bâton.
Les fortes turbulences au sein des Bleus au féminin ont eu l'effet escompté auprès des dirigeants de la fédération.
Dans quelle époque maudite sommes-nous encore tombés? C'est sorcellerie.
Il y avait quand même des discussions, mais je pensais que c'était ce qu'elle voulait et en fait pas du tout.
En tant que sélectionneur, entraîneur, sur la forme, ça me gêne.
Allez, tire au flanc là-bas!
Il se passe quelque chose d'assez unique dans l'équipe de France de biathlon. Les coachs qui ont décidé de démissionner.
Manque de nouveautés dans la préparation, reproche certains athlètes qui n'adhèrent plus au discours de leur coach, à leur exigence extrême peut-être aussi.
Vive la révolution! Vive la révolution!
Alors, trois affaires, un point commun. Première affaire, fin février, trois cadres de l'équipe de France de football féminine claquent la porte des Bleus pour avoir la peau de la sélectionneuse Corinne Diacre. Deuxième affaire, cette semaine, on apprenait dans le journal L'Équipe que les joueurs de l'équipe de France de hockey sur glace contestaient leur sélectionneur. Des envies de putsch existent et l'affaire Corinne Diacre leur donnerait des idées. Troisième affaire, vendredi, RMC Sport vous annonçait que les biathlètes français ne voulaient plus de leur duo d'entraîneurs. Résultat, Vincent Vitoz et Patrick Favre se retirent alors que leur contrat courait jusqu'au JO 2026. Le point commun, vous l'aurez compris, les sportifs qui endossent le maillot de l'équipe de France n'hésite plus à prendre le pouvoir. La musique qui fout les jetons est cette question. La République des joueurs, est-ce du délire? Oui ou non? Marie Martineau?
Non.
Renaud Longuèvre?
Oui.
Christophe Cessieux?
Je sais pas.
Il ne sait pas et pourtant il va tout vous dire. Pascal Duprat?
Oui, c'est du délire.
Avant de débattre, on va retrouver notre spécialiste biathlon en direct d'Oslo. C'est Julien Richard. Salut Julien.
Salut à toutes.
C'est vrai que c'est un coup de tonnerre dans le monde du biathlon. Comment en est-on arrivé là?
Alors on va rembobiner. Vendredi matin, Vincent Vitoz et Patrick Favre, donc les entraîneurs de l'équipe de France, demandent à parler aux médias français présents à Oslo. C'était pas prévu, hein. Et je peux pas vous faire écouter ce qu'ils nous disent parce qu'ils ne veulent pas être enregistrés ou filmés à ce moment-là. Ils sont très très ému, et il nous demande aussi d'attendre la fin de la course des filles qui avait lieu l'après-midi, par respect pour elles, pour publier ce qu'ils ont donc à nous dire. Des mots forts, un point de rupture, nous ne sommes plus en phase avec nos athlètes. Vincent Vitoz et Patrick Favre sont à la tête des Bleus depuis 2018, avec eux les Bleus ont cartonné hein, jusqu'aux Jeux Olympiques, souvenez-vous l'an dernier notamment, et la razzia de Quentin Fillon-Maillet, mais c'est vrai que cet hiver les carabines se sont un peu grippées, il n'y a aucune médaille individuelle au championnat du monde, 6 podiums seulement en Coupe du Monde. Pour la première fois depuis 1997, les Français pourraient terminer une saison sans victoire. Il reste une course seulement cet après-midi. Vincent Vitoz donc pointe une défaillance des leaders. Alors pour des raisons différentes, c'est là que Vincent Vitoz fait notamment référence à la dépression d'Emilien Jacquelin et pour Quentin Fillon-Maillet, qu'il n'a pas voulu les écouter tout simplement sur le fait que cette saison post-olympique serait compliquée et différente. On a de l'exigence que certains n'ont peut-être pas compris, explique Vincent Vitoz. C'est un des points de rupture aujourd'hui avec le groupe. Et Patrick Favre, de conclure, l'Italien, l'entraîneur du tir, l'entraînement se base beaucoup sur la confiance et aujourd'hui, il manque cette confiance. Comment on en est arrivé là? Mardi à Oslo, réunion à l'initiative des athlètes avec le staff, Quentin Fillon-Maillet raconte et assure qu'ils n'ont pas viré leur coach.
Viré, non. On a été à l'initiative de ça. Et très honnêtement, ça a été très très compliqué à l'annoncer. Je suis très fort dans le biathlon, mais annoncer des décisions comme celle-ci, c'est pas simple. Voilà, nous, on n'a pas pris de décision stricte. On leur a dit qu'on se retrouvait plus totalement dans ce qu'ils pouvaient dire et non pas par leurs compétences. Donc aujourd'hui, c'est une décision dure, mais peut-être qu'on aurait dû prendre l'année dernière parce que les coachs étaient plus prêts à accepter cette décision-là. Et le fait de l'avoir pris aujourd'hui, ça a été un peu plus un point de discorde. Donc c'est des situations qui sont difficiles et j'espère que voilà, vraiment que en tout cas on aura une relation qui pourra continuer pour la suite parce que j'apprécie beaucoup ces deux personnes. Ils ont tellement tellement apporté et permis d'aller chercher des choses exceptionnelles. Donc voilà.
On les a pas virés donc, mais ce qui ressort, c'est que c'est pas spécialement lié aux résultats cette saison finalement, même si évidemment ça rentre en compte. Mais des athlètes qui n'adhèrent plus après 5 saisons de travail ensemble au discours, à la vision de l'entraînement, peut-être aussi, surtout peut-être même à l'exigence parfois extrême de leur coach. Et finalement, dans tout ça, c'est la forme qui ne passe pas. Écoutez, Stéphane Boutiot, c'est le patron du biathlon français, et il s'attendait pas à ça en débarquant mercredi lui à Oslo, le lendemain de cette fameuse réunion.
La manière dont ça a été fait, c'était un peu trop violent. C'est surtout ça qu'on avait à reprocher aux athlètes. Sur le fond, à la limite, tout le monde peut comprendre qu'il y a des problèmes relationnels dans une équipe. Mais la manière dont ça a été fait, c'était un petit peu trop brutal. On a beaucoup discuté, on s'est expliqué tous ensemble, les coachs, les athlètes, moi-même. Je crois qu'aujourd'hui, on arrive à un certain apaisement. Et tout le monde s'est expliqué, donc tout le monde retrouve du calme et de la sérénité.
Voilà, et on avait senti les coachs très touchés, je vous le disais vendredi. Même chose finalement chez les athlètes après la poursuite hier. Les dernières heures n'ont pas été simples, pour personne d'ailleurs. Après la poursuite, tout le monde a fait profil bas et calmé le jeu chez les athlètes. Écoutez Quentin Fillon-Maillet et Fabien Claude.
Je prends une part de cette incompréhension ou cette tension qu'il peut avoir du fait que ça a été assez brutal comme annonce. Et voilà, je comprends l'énervement et tout ça, mais voici, c'est vraiment pas simple comme situation et on passe beaucoup de temps ensemble. C'est, voilà, comme j'ai dit, c'est une famille et quand dans une famille, il y a des tensions comme ça, ça crée souvent des disputes ou des écarts entre les personnes. Donc c'est ce qu'on vit en ce moment. Mais j'espère que tout va se tasser et que les choses pourront aller mieux pour la suite.
Tout le monde prend un coup, c'est 5 belles années qui se terminent, ça c'est clair. Ils nous ont fait tous progresser, ils ont fait progresser tout un groupe. Mais vous savez, dans la vie, il y a des chemins qui se croisent, des chemins qui se séparent. Et aujourd'hui, on a senti que c'était le bon moment et on comprend le coup qu'ils ont pris sur la tête, nous aussi. C'est 5 belles années, il ne faut pas retenir que ce week-end. Il faut retenir tout ce qu'on a fait ensemble, les médailles, ils ont aussi tout gagné avec notre équipe. Voilà, c'est tout ça qu'il faut retenir et encore un grand merci à eux pour tout vraiment ce qu'ils ont apporté pendant 5 années.
Voilà, et pour terminer, ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'il n'y a pas de plan B. C'est-à-dire qu'ils ne font pas ça, les athlètes, en ayant derrière l'idée d'un nouveau staff en tête. Ça, ce sera le travail de la Fédération française qui va devoir trouver des remplaçants donc à Vincent Vitoz et Patrick Favre.
Histoire édifiante. Merci beaucoup, Julien Richard. Tu restes avec nous pour ce débat. La République des joueurs, est-ce du délire? Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Je vais aller voir un coach pour débuter. Oui, c'est du délire. Pascal Duprat.
Oui, mais dans le sens où franchement... Le biathlon masculin, ils vont attendre un moment avant que je les regarde, quoi. C'est dans ce sens-là que je le disais. C'est un délire que des athlètes, décident au gré de leurs résultats de la saison, d'avoir droit de vie ou de mort sur leurs entraîneurs. Surtout qu'il s'agit de l'équipe de France. Et moi, ça m'appelle une question, c'est que ça fait 5 ans qu'ils travaillent ensemble et la reconnaissance du ventre, elle est où là?
Mais alors, Pascal,
Prétexte qu'on n'a pas de résultats, on jette en pâture ce qui a été fait, le travail qui a été fait. Si j'écoute ce qui se dit, c'est parce que l'exigence est poussé à son paroxysme, mais il me semble.
Non, mais ça, c'est si tu écoutes ce que disent les coachs. C'est pas ce que disent les athlètes.
Et
ça, c'est ce que disent les coachs. Déjà, oui, c'est une équipe de France, mais c'est surtout un sport individuel. Moi, j'ai un peu de mal à comparer ce qui se passe dans le foot féminin avec ce qui se passe dans le biathlon, parce que dans le foot féminin, on parle d'un sélectionneur qui a droit de vie ou de mort sur ta carrière en équipe de France. Là, on parle des meilleurs athlètes français qui, par définition, courent pour l'équipe de France, mais courent avant et pour tout, pour eux, en fait.
Oui, mais c'est une décision commune.
Donc, ils ont un coach commun, si tu veux, et je l'ai vécu, hein, le même coach que mes autres copains et copines d'équipe de France, mais c'est avant tout ton coach personnel, finalement. Tu mutualises, mais c'est ton coach. Donc, si les coachs arrivent à ne plus faire l'unanimité au sein du groupe en entier, c'est qu'il y a clairement un problème. Et à ce moment-là, tu vois, c'est pas les athlètes qui vont quitter l'équipe de France, pas les athlètes qui vont arrêter de faire leur carrière, c'est bien les coachs qui vont partir. Tout ça me semble assez logique. Alors, c'est difficile parce que il y a une loupe qui s'appelle les médias, les réseaux sociaux, et qui fait que t'as l'impression que tu laves ton linge sale, pas vraiment en famille, parce que ça se sait, parce que t'es obligé d'aller expliquer les tenants, les aboutissants, mais tout ça est assez sain finalement.
Enfin, ce sont les deux entraîneurs qui ont convoqué la presse pour leur dire on a une annonce à vous faire et on va partir de l'équipe de France parce que les athlètes ne nous veulent plus.
Alors, je me suis demandé pourquoi ils le faisaient là. Ils auraient très bien pu, ça arrive plein de fois qu'en fin de saison on change le staff et que les gens s'en aillent.
Certainement la surprise qui les a gagnés, en fait, ces deux entraîneurs. Ils ne s'attendaient pas à ce qui s'est passé.
Je pense qu'ils ont aussi un peu
quotidien, ça se passe au quotidien en tennis.
Et après Renaud.
En tennis, un joueur décide que ça ne marche plus avec son coach et il décide régulièrement de changer. Gaël Monfils, il a changé 50 fois d'entraîneur. Bon, la différence.
Tu me parlerais de la Coupe Davis.
C'est pas pareil. Il s'agit d'une fédé là. Est-ce que je peux finir mon exposé?
Donc quand tu payes ton entraîneur, t'as le droit de le virer. Quand tu le payes pas, tu peux pas le virer.
Vas-y Pascal, fini et après Renaud Longuet.
Non, mais que les athlètes soient mécontents ou qu'il y ait des problèmes entre les athlètes et les entraîneurs au sein d'une équipe de France, donc d'une fédération. Tout ceci se doit régler par l'appareil qui détermine, qui choisit, qui décide, c'est-à-dire les dirigeants. Où sont les pilotes dans cette affaire-là? Le président de la Fédé de ski, quand est-ce qu'il prend la parole, le taureau par les cornes? Parce que ce qu'il dit là, je viens de l'entendre, ce qu'il dit c'est affligeant en fait. Oh, ça s'est apaisé depuis, voilà. Non mais oh, il faut qu'il y ait des pilotes forts là. Il faut que les choses elles se règlent par ordre.
Ouais, mais le problème c'est que c'est une très grosse fédé. Je veux pas te défendre particulièrement Fabien Sagaz, mais c'est une grosse fédé qui a beaucoup de disciplines. Donc tu n'es pas dans le cœur du réacteur de chaque discipline. Tu n'es pas au cœur de l'entraînement, de ce qui se passe
mais
dans les relations humaines.
Tu dois quand même avoir
humaines,
des référents, non? Je pense.
C'est Boutiot qui s'occupe en fait du biathlon. Et on l'a entendu tout à l'heure dans le reportage de Julien. C'est lui le patron du biathlon en fait. Après effectivement il y a 50 disciplines différentes.
Mais je trouve qu'il y a un point commun dans toutes les affaires, c'est qu'à chaque fois, on dit ah ouais, mais la forme, dis donc, elle est délicate. Et d'ailleurs, il nous le dit, hein, le patron du biathlon, il dit ah ouais, je suis pas d'accord avec la forme. Didier Deschamps qui parlait de Corinne Diacre en disant la forme, je trouve qu'elle est catastrophique. Enfin, il disait je suis pas du tout d'accord avec ça. Renaud Longuèvre sur
mais
cette République
des joueurs.
Mais en
vrai, quand tu te quittes, c'est jamais super heureux, quoi. Tu quittes ta femme, tu te sépares, c'est jamais vraiment bien fait, quoi. S'il n'y a pas vraiment de manière, quoi.
Mais Marie,
et quand tu quittes ton mari,
pour cet exemple, quand
c'est pas bien passé,
quand t'es confronté
moi,
à des problèmes comme ça, quand t'es confronté à des problèmes de couple comme ça, t'as deux options. C'est soit t'essayes de te rabibocher, tu vas t'asseoir chez un psy, et puis t'essayes de recoudre un petit peu et de refaire le fil de ce qui a créé la discorde et l'éloignement entre les deux conjoints. Mmh. Ou alors t'as pas envie de faire cet effort et ce travail-là, et là tu vas au divorce et tu te retrouves au tribunal de grande instance avec un jugement de divorce. Voilà ce qui se passe en général. Là, attention, parce que on met tout là sur mais la décision, c'est les entraîneurs qui s'en vont. Alors vous allez me dire oui, mais ils ont été poussés. Mais quand tu entends Quentin Fillon-Maillet, c'est pas si clair. Il dit moi je suis un expert du biathlon, ski et tir ça me va, mais par contre si ça se trouve, tout simplement ils ont juste essayé de bousculer un peu leur coach en leur disant là il y a des trucs qui nous conviennent pas et peut-être
non, non. Ils leur ont dit qu'il fallait pas rester. C'est ça. Ils en voulaient plus de ces coachs.
Tu le sais ça?
Franchement déjà par rapport à toutes les informations qu'on a pu sortir sur RMC Sport, et je m'appuie sur Julien Richard, et ouais, surtout quand tu écoutes ce que dit Quentin Fillon-Maillet, il dit non, mais on les a pas virés, mais de toute façon ça pouvait plus continuer, donc voilà, ça a été dur de leur annoncer, mais il fallait leur annoncer, donc c'est quand même eux qui décident. Alors ok, je veux bien qu'on mette pas sur le même plan le biathlon que l'équipe de France de foot féminine, si vous voulez.
Non, mais les coachs étaient pas obligés. Les coachs étaient pas obligés de réagir de manière sanguine et de dire on s'en va, on claque la porte, on voilà.
Ils auraient très bien pu dire, hey, les gars, le choix.
On attend la fin, on attend la dernière compétition. Comme ça, on va laver le linge sale quand il y aura plus les médias braqués sur nous, parce que à la fin de la dernière Coupe du Monde, le biathlon, on n'en parle plus.
Non, hein, mais là, c'est ça.
Roller skate et on n'en parle plus.
Mais là, c'est l'orgueil qui a parlé.
Les coachs, ils étaient pas obligés d'aller, tu vois. Je trouve qu'on parle beaucoup sans savoir. On sait pas. Moi, j'ai essayé d'interroger quelqu'un que je connais dans le biathlon, qui s'appelle Marie-Laure Brunet, qui est médaille olympique. Elle m'a dit, c'est la fin de l'histoire et la remise en question, elle doit se faire des deux côtés. Et c'est vrai que je trouve que moi, là, cette histoire, c'est une histoire de management. C'est pourquoi je crois pas à cette histoire de république des joueurs. Je veux dire, à Sou et Méjaquet, il n'y avait pas de république des joueurs. Ok, on a entendu ce terme-là à l'époque où Zidane faisait des barbecues en 2006 dans le dos du coach et avait créé une espèce de management interne à l'équipe qui était un peu parallèle à celui des coachs. C'est un terme qui revient comme ça. Mais quand le management est malade, quand il y a un management, il y a des outils aujourd'hui. Quand ça va pas très bien, on fait de l'analyse des pratiques.
Non mais pardon, Renaud, je t'interromps deux secondes. Il y a quand même une tendance là qui se dégage. Alors c'est peut-être juste de circonstances. Je trouve qu'il y a des histoires de putsch qui sont assez hallucinantes et qui justement maintenant les joueurs ont envie de prendre leur.
Mais parce que les joueurs ont pris un poids, quel qu'il soit. Les athlètes en règle générale ont pris du poids. Ils ont le poids des réseaux sociaux. Du reste, c'est très bien. C'est exactement ce que Vincent Vitoz disait. Ils sont pleins. Il dit voilà, il y a certains athlètes qui sont déjà des stars alors qu'ils ont encore rien.
Fillon Maillet et Jacquard. Mais je dis pas que c'est bien ce qu'il dit.
Je répète ce qu'il a dit.
La génération Platini, Fernandez, Tigana, Gires, Pascal le sait sûrement mieux que moi, mais c'était des gens, ça m'étonnerait que c'était pas des moutons avec Hidalgo.
Attendez, je reprends.
En équipe de France de rugby aussi, les joueurs avaient pris le pouvoir, le sélectionneur était toujours en place, et c'est les joueurs qui décidaient. Mais ça, je te parle des années 90. Au Stade France, ils avaient viré leur entraîneur et ils avaient pris le pouvoir. C'est pas nouveau, on découvre pas ce genre de choses.
Parles de Patrick Favre, l'un des entraîneurs de cette équipe de France, qui a dit, quand tu vois les réseaux sociaux de certains, ce sont déjà des stars, même ceux qui n'ont rien gagné. Avant de faire la star sur les réseaux, il faut le faire sur la piste ou sur le pas de tir. Certains pensent être des stars sans rien faire et c'est difficile à coacher.
Et ben là, il parle des athlètes, et je sais pas de quel, en attendant, il a quand même gagné quelques trucs, c'est celui qu'on a entendu tout à l'heure.
Julien Richard, tu veux ajouter quelque chose?
Juste sur ça, je pense que c'était vraiment très global comme analyse. C'est la vision qu'il a aujourd'hui. C'était pas ciblé, je pense, sur tel athlète. C'est vraiment tous les biathlètes, même pas les Français, pas que les Français. Avec l'Italie, il a été. Enfin voilà, c'est sa vision.
Ça en dit très long sur la rupture qu'il se passe entre ces coachs qui ont peut-être plus la capacité de comprendre dans quel monde vivent aussi ces athlètes-là. Ces athlètes, ils discutent avec les autres, des autres pays, ils voient les pratiques qui sont faites à côté. Et peut-être qu'ils ont, au tout départ de l'histoire, simplement demandé à ce que la pratique de coaching évolue. Ça voulait pas dire on n'a pas envie de se faire aussi mal que d'habitude, ou ça voulait juste dire on peut peut-être essayer de le faire différemment. Moi, je l'ai connu, je me souviens très bien, les garçons avec qui je m'entraînais, dire à mon prêt physique, on aimerait bien faire des trucs plus ludiques. C'est cool de pousser de la fonte, mais est-ce qu'on peut le faire en faisant des trucs plus ludiques? Bah voilà. Et peut-être qu'au départ, c'était juste un truc comme ça, mais qui est une petite maison
de dialogue. Dans d'autres disciplines, quand les résultats ne sont pas là, Pascal, tu sais ce que c'est, foot, eh bien, ce sont les dirigeants, les présidents qui décident de virer l'entraîneur. Et là, les résultats ne sont pas bons cette année. Et donc, ça aurait peut-être été à la Fédération française de ski, ou aux dirigeants du biathlon, de dire, écoutez, Vitoz et machin, il n'y a plus de résultats.
Et il y a aussi, Christophe,
c'est les athlètes qui ont pris cette décision. Mais est-ce que c'est pas un manquement, finalement, de la part de la direction? Parce que quand tu vois de mauvais résultats comme ça, normalement, c'est les entraîneurs qui sont virés.
Et je te donne la main, Pascal. Tu as raison, parce que Corinne Diacre, c'est aussi parce qu'il y a eu du laxisme tout en haut que les athlètes et que les sportifs.
Ça marchait bien l'hiver dernier.
En foot, tu vires un mec au bout de 3 ou 4 matchs.
Mais le foot, si c'était une bonne école, ça saurait. C'est catastrophique comment c'est géré dans le foot.
C'est des pratiques qui se font dans le sport professionnel.
Pascal Duprat.
Une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui, les athlètes, dans quelque sport que ce soit, non pas ont pris du poids, mais doivent être managés de manière complètement différente de ce qui se passait il y a ne serait-ce que 10 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut à l'intérieur, parce que Marie, c'est quand même une équipe de France, on est bien d'accord, ça veut dire ce que ça veut dire, le biathlon. Et ils font même d'ailleurs des épreuves par équipe.
Oui, donc c'est mais bien, bon, c'est pas le plus important.
C'est bien un sport individuel, et là je te rejoins, mais c'est dans le cadre d'un collectif, malgré tout. Et dans le cadre d'un collectif, il faut faire attention à chaque individu. C'est le rôle des coachs aujourd'hui, et c'est pour cette raison qu'il y a une multiplication des intervenants sur un groupe de
donc,
sportifs
donc
de haut niveau.
Du principe, Pascal, que les coachs savent mieux comment faire.
C'est la com qui est importante. Et ce qui fausse tout, c'est bien sûr l'apparition des réseaux sociaux, le fait que tout est disséqué, tout est
étiqueté. Oui, mais ça, c'est le monde dans lequel on vit, c'est comme ça. Voilà, donc maintenant, il va falloir que les gens s'y fassent.
Il faut prendre ce phénomène en compte, mais malgré tout, ne dites pas que dans le cas qui nous préoccupe, les deux cas qui nous préoccupent, c'est-à-dire les féminines pour ce qui est du foot et les biathlètes Fillon-Maillet en tête, ils pouvaient quand même faire autrement, attendre la fin de la saison pour acter le fait que les deux coachs devaient se retirer tout simplement.
Oui,
parce que les coachs, ils ont saisi la balle au bon.
Renaud, je te donne la main, dans
le foot, c'est toujours catastrophique, mais c'est pas vrai. Les 20 années d'Arsène Wenger à Arsenal, il n'y a jamais eu de République des joueurs.
Oui,
Arsène,
mais pourquoi
il démarrait
aussi
sa saison, parce qu'il rendait les mecs autonomes. Moi, un jour, il me l'a expliqué, il m'a dit, par petits groupes, ils devaient d'abord décider quelle langue ils doivent parler sur le terrain, parce qu'il y avait des Russes, des Espagnols, des trucs, des machins. Voilà, quand t'as un manager qui a un vrai management de A à Z et qui regarde le management du 15 de France aujourd'hui, chacun est à sa place. Je veux dire, on a parlé Sean Edwards, il y a deux psychologues à temps plein sur le 15 de France qui débriefent toutes les erreurs individuelles des joueurs avec les joueurs après chaque match.
Ce management-là, il est généralisé, Renaud, aujourd'hui. Bien sûr que les sportifs sont acteurs de leur projet. Dans 99% des cas, dans quelques disciplines que ce soit, le sportif est acteur de son projet. Les coachs l'accompagnent. L'avis des compétiteurs compte énormément aujourd'hui. On fait appel à eux dans le management.
Après, moi, j'ai l'impression qu'on
n'arrive pas
aussi
à croire que c'est pas possible au biathlon, que c'était pas comme ça au biathlon. C'est quand même pas un management
aussi rentrer ça dans un cadre sociétal. Hein. De plus en plus aujourd'hui, l'autorité elle est contestée dans les entreprises. Les jeunes, on le voit dans toutes les boîtes, n'hésitent plus à se plaindre du comportement parfois autoritaire de certains de leurs chefs. Ils obtiennent souvent gain de cause. Pardon.
49-3.
Continue.
N'importe quoi. C'est vrai que moi, c'était inimaginable, moi, à l'époque où j'ai commencé, t'allais pas dire à ton chef qu'il t'emmerdait et que tu ne supportais pas son autorité. Aujourd'hui, c'est comme ça. Hein, c'est la société qui le veut, l'évolution de la société. Et je vois pas pourquoi ça serait différent dans le cadre du sport, où en plus tu as affaire à des garçons qui sont starifiés, qui sont des stars de tous les côtés, qui gagnent beaucoup d'argent et qui en font leur métier.
Ok. Moi, personnellement, je vous trouve bien cool sur le sujet, mais on pourra en reparler avec vous sur au 32-16. Venez nous dire ce que vous en pensez. J'ai notamment David, si tu veux intervenir, n'hésite pas à composer le 32-16, c'est via le Direct Studio. Je suis excédé de ces athlètes qui décident du sort des entraîneurs. Franchement, ça m'énerve. J'ai un vrai coup de gueule à passer. N'hésite pas, compose le 32-16.
Oui, donne la parole aux gens qui sont d'accord avec toi. Tu as raison, fais ça. Appelle-nous, David.
Attendez, mais si cette émission était une république des joueurs, ça se saurait. Voilà, c'est la république des animateurs. Voilà, donc je mène le vent où
qui le chef
tout ça, parce que c'est très bien le vent. J'avais plus l'expression. 10h32, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. Pierre Amiche, il est heureux parce qu'il adore ce nouveau jeu du 15 de France. Mais où est Bernard? Où est Bernard Laporte? À tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h35, on est de retour sur RMC pour notre plus grand plaisir avec Christophe Cessieux, Pascal Duprat, Renaud Longuèvre, Marie Martineau. À partir de 11h, on ouvre le dossier Capitana au sein de l'équipe de France de foot. Mbappé, pas Mbappé, pour ou contre Mbappé, ce sera un 2 contre 2, un bras de fer absolument magnifique. Mais tout de suite, comme tous les dimanches, on fait entrer Pierre Amiche.
RMC.
Quand je suis content, je vomis.
Un homme heureux.
Je suis tellement content.
Pierre Amiche, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors, heureux aujourd'hui.
Ah oui, heureux.
Et heureux hier.
Ah, oh, heureux, heureux. Un week-end heureux. Aujourd'hui, je suis heureux parce que le 15 de France, c'est quand même une sacrée équipe de rugby. On a perdu qu'un seul match en se faisant voler par un intermittent Roukmout. Mais à part ça, on a dérouillé tout le monde. Hein. Tout va bien. Il n'y a pas un nuage à l'horizon. La Coupe du Monde, c'est demain. On a une équipe qui fout les miquettes à la terre entière. Hein. On a les meilleurs joueurs. On a le meilleur staff. On a la meilleure bouffe. On a la flèche du temps. Je veux dire, on est intouchable. On est intouchable. Mais je sais pas. Ça, c'est pas nous. C'est trop carré. C'est pas c'est le chaos. Le rugby, on a toujours besoin de sentir qu'on nous aime pas. Un siècle de paranoïa, ça marque un peu les esprits. Alors, une partie du staff du 15 de France a inventé un nouveau jeu génial. Il s'intitule « Mais où est Bernard ?» Hein, le but est super simple. Comment est-ce qu'on va emmerder le plus possible Amélie Oudéa Castéra, la ministre des Sports? Hein, c'est un jeu pas facile qui consiste globalement à rester dans la légalité, mais de faire le plus de trucs débiles pour lui faire péter un plomb. Hein. Pour faire simple, elle peut pas encadrer les rognons. Eh ben, c'est rognons tous les jours à la cantine de Marcoussi. Et paf, déjà, hein, ça commence comme ça. Le jeu, il a démarré un petit peu avant le tournoi Destination. La première manche, c'est à Cap-Breton. Bernard Laporte vient tout juste d'être débarqué, démission forcée et tout le tremblement. Je vous ferai pas la chanson de la justice. Mais qui sait qu'on voit pas débarquer à l'hôtel du 15 de France? Je vous le donne en mille. Coucou, c'est moi, c'est Bernard Laporte. Je t'ai caché dans la cuisine, en fait. Il est là, il se marre, il est content. Hein. Perso, je l'ai déjà dit, moi, j'en ai rien à cirer. Il est content, je suis content. Moi, j'ai rien contre lui. Hein. Je préfère être dans mon slip que dans le sien, mais n'empêche que voilà, moi, ça me regarde plus. N'empêche que de la part des Bleus, c'est taquin. Hein. C'est taquin. Et la justification de Raphaël Ibanez, le manager de l'équipe de France, oh, c'est du miel.
Les raisons sont très simples. La première, c'est que l'organisation de la Coupe du Monde en France, c'est lui. La motivation profonde que l'on peut ressentir chez les joueurs à l'heure actuelle, elle vient de là, pour disputer cette compétition d'envergure internationale. Et le dispositif actuel, les conditions d'entraînement et le staff, c'est lui aussi.
Il aurait pu rajouter, de toute façon je m'en fous, il sera en Italie parce qu'il adore les pâtes, il viendra en Irlande parce qu'il a des copains là-bas, et puis ça nous arrange, plutôt que de prendre deux bagnoles, il sera là. Après, contre l'Écosse, bon, il habite à côté du Stade de France, il est à Toulon, donc il viendra passer une tête. Je m'en fous, j'ai le droit d'inviter qui je veux. Moi j'ai invité Jean Dujardin, je peux inviter mes copains. Et c'est pas Oudéa Castéra qui décide de qui c'est mes copains, merde hein. Face à l'Angleterre, bon, on verra. Bref, le rugby a inventé un jeu. Après, si tu glisses, si tu rates un peu, si tu oublies un truc, t'es viré. Ah ouais, c'est un jeu rigolo, faudrait pas non plus oublier que c'est dangereux. Hein. Tu fais la danse du ventre devant un animal sauvage, ça peut mal tourner. Alors toi, JC, gogo que tu es, t'avais même pas vu qu'il y avait un jeu. T'étais là, ouais, Antoine Dupont, gna 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 gna, faire le spécialiste des débats pétés. Mais le jeu a basculé dans la sphère publique et donc dans la tienne en moins de 15 jours. D'abord, contre l'Angleterre, victoire historique, c'est la fête. Galtier, en larmes, doit virer l'eau de son masque de plongée. Et au micro, c'est Cécile Gray sur France 2, c'est le dérapage.
Les joueurs voulaient faire quelque chose aujourd'hui, on voulait sortir le match. On a sorti le match aujourd'hui. Et pour nous, ça veut dire qu'on est dans le vrai, qu'on est juste. Et les joueurs, le staff, la Fédération Française de Rugby et tous les gens qui nous ont aidés à être là aujourd'hui, je pense que c'est pour eux.
C'est pas vrai. On y était presque. On a touché une voile sublime, Fabien. On a failli plonger tout nu dans une piscine de bonheur. Le haut niveau, c'est le chaos, c'est l'enfance, c'est le sacré. T'as été opiniâtre, t'as été magnifique. T'avais tout prévu, la flèche du temps, les data, l'équipe premium, l'équipe pas premium, les finisseurs, les Gaulois, la NASA. Et là, tu craques à 2 mètres du bol de sangria. Terrible. Au cas où c'est pas clair, 30 minutes après, en conférence de presse, il dit qu'il a une grosse pensée pour Bernard, sans jamais citer Laporte. Cerise sur le gâteau, ce samedi, histoire de montrer qui est le chef, en faisant pipi partout par terre. Vous savez qui c'est qui a remis les maillots au 15 de France? Non, je déconne pas. Hein. Bernard Laporte. C'est à la fois très drôle et tellement amateur. Bon, après, c'est lui qui a conduit le bus jusqu'au Stade de France, qui a découpé les oranges à la mi-temps. Puis on pouvait pas lui dire de rester chez lui parce que c'est lui qui avait gardé les maillots après l'Angleterre pour les laver. Non, en vrai, c'est un bras d'honneur magnifique à la justice et à la ministre. La pauvre, elle était dans les tribunes du Stade de France. On aurait dit un manchot sur la banquise arctique. La froideur à côté. À côté, Pascal à Saint-Etienne, c'est Jean-Jacques Goldman. Folie totale, quoi. Là, c'était tellement triste. Après, je vais être sincère. Il y a des jeux qui me font pas trop marrer. Hein. Le Buffalo, le mon cul, vous savez, il te passe le bonjour, qui, mon cul, tout ça, ça me fait pas trop marrer. C'est perso, mais j'aime pas avoir le cerveau en ébullition, à toujours pister le mec qui va te faire une crasse, ça me saoule, je passe pas des bons moments. Hein. Et le jeu du il est où Bernard, ça me fait plus trop rire non plus, parce que le rugby, il se retranche, il s'isole. Au moment où justement, il pourrait être populaire, massif, on s'accroche à des vieux principes et des trucs qu'on faisait il y a un demi-siècle. Seulement, Oudéa Castéra ou pas, le 14 juin prochain, il y aura un nouveau président de la fédération et ce ne sera plus Bernard Laporte. Désolé, Christophe. Je crois que la plus belle preuve d'amour, ça serait de rendre sa liberté au 15 de France. Une vie, pardon, à l'ex-patron. Alors Bernard, la France, maintenant, tu l'aimes et tu la quittes.
Merci Pierre Amiche pour cet homme heureux. C'est à vous de trancher les GG autour de cette question. Le 15 de France en fait-il trop avec Bernard Laporte? Oui ou non? Christophe Cessieux?
Non.
Marie Martineau.
Bah oui.
Pascal Duprat.
Non.
Renaud Longuet.
Non.
Ah. Bon.
Je vais aller voir le oui.
Marie.
Marie, à toi de jouer.
Bon, moi, je suis dans la...
On prépare l'émission ensemble, non, mais, Pierre.
Non, mais quand on se voit, en ce moment, on dort. Voilà, c'est les seuls moments de la journée.
Okay, et sur le débat.
Donc, sur le débat, je suis entièrement d'accord avec Pierre. Bien sûr qu'ils en font trop, mais je me délecte. Je prends le pop-corn et je regarde, parce qu'après tout, ça fonctionne comme ça. Et à qui aura la plus grosse, ou qui c'est le mammouth, ou le... Je sais plus, c'est quoi.
L'éléphant, ou le rhinocéros.
Ou le rhinocéros, voilà. Qui est le plus fort? Bon, ben, on rira bien. Qui rira le dernier?
Et on attend le prochain épisode, évidemment. Mmh. Christophe Cessieux, ça te dérange pas?
Non, moi ça me dérange pas. C'est la reconnaissance du ventre, l'amitié. Je suis désolé. Bernard a sans doute fait des conneries. Il a été puni pour ça. Il est plus président de la Fédération française de rugby. Il n'a plus de fonction officielle là-dedans. Mais il reste très attaché. Et le
s'il a plus de fonction officielle, mais qu'il tire toutes les ficelles, qu'il est partout tout le temps, c'est quand même particulier comme façon.
Pas parce que tu remets les maillots. Il y a un mec qui remet les maillots à chaque match, Marie.
Mais tu connais le pouvoir des images.
Que tu as un pouvoir. Je trouve que c'est juste une histoire d'amitié, de reconnaissance. Aujourd'hui, si le 15 de France en est là, c'est grâce à Galtier, c'est grâce aux joueurs en priorité, mais c'est aussi grâce aux moyens qui ont été mis à leur disposition et qui ont été mis par le travail de la Fédération française et de son président. Je suis désolé. Effectivement, il a fait des conneries. Effectivement, il ne doit plus être là. Mais il n'empêche qu'il n'a pas fait que des conneries
Mais si, parce que
tu coupes les têtes, tu vires les mecs, tu les écorches vifs et tu les pends au écho.
Il a
été pendu au écourt par la ministre et par ses conneries et par la justice. C'est un fait avéré, voilà, c'est ça. Mais qu'il ait le droit et que Fabien Galtier, qui a été son capitaine et qui a été son sélectionneur, soit reconnaissant envers Marine Le Pen, ça ne me choque pas.
Voilà, alors la reconnaissance, aucun problème. Mais quand, en l'espace d'un mois, trois fois, Bernard Laporte est auprès de cette équipe de France, ou alors après une victoire historique face à l'Angleterre, l'un des premiers mots, c'est de dire on a une pensée pour Bernard. Je sais pas, je laisse Pascal Duprat et Renaud Longuèvre. Renaud Longuèvre.
Bah, y a une justice quoi dans le pays, et c'est vrai que c'est pas le boulot de Fabien Galtier ou Raphaël Ibanez d'avoir la posture d'un juge. Bernard, il a été condamné le 13 décembre à 2 ans de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende et tout ce qu'on sait. Donc ça, c'est la justice.
Alors ok, mais... alors attends, Renaud, très bien. La justice. Si demain, il y a le rassemblement des Bleus à Clairefontaine, si demain, Noël Le Graët est invité à déjeuner, si la semaine prochaine au Stade de France face aux Pays-Bas, il est invité à la causerie de Didier Deschamps, il n'y a aucun problème?
Si légalement il n'enfreint pas les lois du pays.
Non mais là on est sur un autre débat. On parle pas de la loi, les gars.
Il va pas aller en prison.
Si on parle de la loi, je veux dire.
Toi, il y a des. Mais non, on ne parle pas de la loi.
Ils sont extrêmement solidaires. C'est ce qui est
terrible. Mais on parle d'une question d'image. On ne parle pas de loi.
Vous êtes sur la morale.
Vous êtes sur la morale parce qu'on est dimanche matin.
On est dimanche matin. Sœur Marie et frère JC sur la morale.
Frère Tuck.
Je suis absolument d'accord avec Christophe. Donc c'est la reconnaissance du ventre. Alors je dis pas est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas. Je sais pas tout. J'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Mais moi, ce que je salue, c'est que le Stade de France soit reconnaissant, parce que s'ils sont là, c'est grâce à Bernard Laporte. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, par rapport au débat que nous avons initié il y a quelques minutes, ça veut dire aussi que chez les rugbyman, il y a pas de république de joueurs, parce que c'est soit ça leur plaît, normalement ils devraient intervenir puisque ce sont eux les tout-puissants, si j'en crois ce qu'on se disait tout à l'heure.
Non, mais peut-être pourquoi les joueurs
pourquoi les joueurs, parce que ça leur convient.
Non, peut-être qu'ils s'en foutent ou que ça leur convient, tu vois.
Ben voilà, ben ça leur convient, donc il n'y a rien qui va empêcher l'équipe de gagner. Donc bon, ça va peut-être durer encore jusqu'au mois de juin, comme vous l'avez dit, parce qu'il y aura un nouveau président.
D'accord.
Mais bonne chance à lui.
Mais en tout cas, je répète ce que je vous ai dit, parce que vous m'avez pas forcément répondu là-dessus. Si Noël Le Graët demain intervient, il y a des images symboliques avec lui autour de l'équipe de France, ça choque personne et ça gênera personne.
J'ai mais non, monsieur le père, Drouet, non, voilà, ça
te choque. Jean-Christophe, moi ça me choque pas. Et Christophe, ce sont donc c'est votre mission à vous les journalistes, parce que vous sélectionnez les personnes que vous défoncez. Vous devriez y aller, vous devriez vous offusquer.
Non,
moi, je vois pas,
pas
grand chose dans la presse à ce sujet.
Absolument pas.
Sur le Gret beaucoup, mais en tout cas sur Bernard Laporte depuis. Ça fait plus la une, bien sûr, mais voilà, ça fait pas beaucoup de. Donc c'est toléré aussi par.
Je vais te dire moi ce que j'en pense, Pascal. La délinquance en col blanc, c'est correct. La délinquance de Monsieur Laporte, c'est correct, c'est admis, ça va. Et
non,
ben moi, ça me gêne. Ça me gêne parce qu'on en met des caisses et des tonnes à la télé sur des sujets, sur des gars qui disent des trucs ou tu vois. Et là, la délinquance de ces gens-là, il n'y a pas de problème. Non, mais tu dis quand même que c'est tolérable d'avoir Laporte qui remet les maillots parce qu'il faut respecter la main qui t'a nourri.
Je parle de l'attitude du staff du 15 de France. Je ne te parle pas de ce que je ressens. Je te parle de leur attitude. Ils montrent qu'ils sont reconnaissants à Bernard Laporte.
On est bien d'accord là-dessus. C'est pas forcément.
Et pardon.
Mais c'est parce qu'ils veulent.
C'est pas parce qu'ils
sont
pas la condamnation
aussi.
Qui va abolir le lien humain. La condamnation va pas abolir le lien humain.
Il y a pas de souci.
Moi, je veux
humain,
dire, j'ai combattu le dopage de toutes mes forces. Le combat de toutes mes forces. J'ai connu dans le passé des gens qui ont été pris pour dopage. Mais c'est pas pour autant que j'ai arrêté de leur dire bonjour.
Tu fais tout avec eux et tout, mais tu vas pas aller dans une émission télé où
t'as affiché. Sinon, on va dans le mur. Je veux dire, le moindre tollard. On n'a pas dit qu'on était qu'on n'est pas leurs avocats, Marie. On n'est pas les avocats de Bernard Laporte.
Vous voyez bien que c'est pas juste. Ils ont fait une bouffe entre amis et ils font ce qu'ils veulent chez eux. Ils se décident de mettre en place des actions visibles du grand public, de nous les médias, pour nous montrer un petit peu que Amélie, elle est gentille. Elle a pensé faire un petit peu la maîtresse d'école, mais en attendant, c'est eux qui continuent à faire ce qu'ils ont envie.
Non mais Marie, ce serait plutôt à Bernard Laporte de prendre conscience qu'il devrait de lui-même ne pas apparaître.
Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi.
Mais on n'est pas à sa place. Voilà, peut-être qu'à sa place, même si on m'invitait, si le staff que j'ai choisi m'invitait, j'irais pas.
Ok les copains, on va arrêter sur ce débat. Je réponds juste à Pascal. Le devoir et la mission d'un journaliste, ce n'est pas de faire tomber bêtement ceux qui nous dérangent à nous.
Non, c'est sélectionné en fait.
Non, c'est pas sélectionné, voilà. Pardon, mais Noël Le Graët, il est tombé tout seul, il n'a pas eu besoin de nous. Et Noël Le Graët, dans l'émission qu'on a fait avec Marion Bartoli, il est tombé tout seul. Il n'a pas eu besoin de nous.
Pas jusque-là, Jean-Christophe, c'était pas. Non, je parlais d'un point de vue général, je ne pensais pas à toi particulièrement ou à Marion.
Non, mais j'entends.
Je disais, aujourd'hui, si Laporte apparaît en permanence avec le 15 de France, ça semble moins déranger les journalistes que si c'était Le Graët qui apparaissait.
D'accord,
voilà,
ok.
C'était une remarque.
Parfait. Mais moi, je t'aime toujours autant, mais j'aime bien comme ça friser un petit peu, entrer dans la bataille avec vous. 10h49, on se retrouve dans quelques instants. Le zapping des GG, on va parler d'Esteban Ocon et de Pierre Gasly. 6e, 9e, on s'en fout pas. C'est le Grand Prix d'Arabie Saoudite à 18h sur RMC. À tout de suite. 10h51, on est de retour sur RMC, les grandes gueules du sport, ensemble jusqu'à midi. À partir de 11h, restez bien avec nous. Le bras de fer des GG, Mbappé capitaine, pour ou contre, ce sera un 2 contre 2. Mais tout de suite, on s'en fout pas.
Le zapping des GG, le retour.
Toujours avec les copains, les grandes gueules, Renaud Longuèvre, Christophe Cessieux, Marie Martineau, Pascal Duprat, des informations à vous donner, à vous de me dire si ça vous intéresse ou non. La première à vous donner, c'est le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Nos deux Français sont quand même bien placés, surtout si on regarde le Grand Prix précédent. Ocon 6e, Gasly 9e, on s'en fout pas, Christophe Cessieux.
Qu'il soit 6e et 9e ?
Ouais, ça t'intéresse ou pas ?
Ouais.
Ouais, tu prends ? Ok. Marie Martineau ?
J'achète.
Tu achètes. Renaud Longuèvre ?
Ah, ça m'intéresse.
Pascal Duprat ?
Je laisse.
Je vous donne la grille. Sergio Pérez a décroché la pole position du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Hier, derrière lui, Fernando Alonso, George Russell et lui 3e. Charles Leclerc, on en a parlé à 9h30, et lui 12e. Et nos deux Français, donc Esteban Ocon 6e, Pierre Gasly 9e. Hier, on se posait la question de savoir si Esteban Ocon, qui avait dû abandonner lors du premier Grand Prix, avait un petit peu la pression. Il a parfaitement répondu, non Christophe ?
En terminant sixième?
Ouais.
Bah oui, mais bon, après, la semaine dernière, il avait aussi brillé en essai, et ensuite, Gasly avait été plus rapide que lui en course, donc on verra un peu comment que ça va donner ce soir. Mais 6 et 9, c'est pas mal. Je pense qu'ils sont à leur place pour l'instant. On verra ce que ça donne en course.
Ok, Marie Martineau.
Bah, saison très excitante, quoi qu'il en soit, parce que il y a un peu d'hégémonie de Red Bull, mais derrière, on a l'impression que entre Aston Martin, Ferrari, Mercedes, tout ça peut fluctuer, se bagarrer, et finalement, on risque d'assister à des courses sympas. Et donc, je suis ravie que nos deux Français soient enfin au milieu de ce petit peloton de fight qui va nous intéresser plus que l'hégémonie de Red Bull.
C'est ça. Il y a une course dans la course, et voilà. Nous, on a envie de suivre cette course.
Trop bien que les Français soient là au milieu, quoi.
Renaud Longuèvre.
Ouais, on sent une progression. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est vrai que j'avais quelques doutes en début de saison. On avait eu le débat là sur, d'ailleurs, sur le. Bon, est-ce que ça va être une saison boring à tous les niveaux? Là, on a vu avec la casse de Verstappen que rien n'est fait, rien n'est joué. Et puis, les performances des Français et de l'écurie française, c'est excitant de se dire waouh, est-ce que ça peut aller jouer des podiums, ça nous ferait plaisir.
Le départ du Grand Prix, c'est à 18h en direct d'Arabie Saoudite. Ce sera à suivre sur RMC. Évidemment, nous serons également avec Jean-Luc Roy à partir de 18h et tout au long de la soirée pour vous compter ce nouveau Grand Prix. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est la Bélarusse en tennis, Sabalenka, qui admet qu'il y a des tensions avec les joueuses ukrainiennes. On s'en fout pas. Pascal Duprat.
Moi, je m'en fous pas.
Marie Martineau.
Ah non, moi non plus.
Renaud Longuèvre.
Ah non.
Christophe Cessieux.
Ben non.
La semaine de Sabalenka, qualifiée hier pour la finale d'Indian Wells, a été marquée par un match du troisième tour où elle a profité d'un forfait de l'Ukrainienne Tsurenko. Pourquoi elle a déclaré forfait? Je vous explique tout ça dans quelques instants. Mais après ce forfait, en conférence de presse, la Bélarusse a déclaré, bien sûr qu'il y a beaucoup de tensions entre nous, mais je reste convaincu que je n'ai rien fait de mal aux Ukrainiens, ni moi. Ni les Russes. Aucun d'entre nous n'a de contrôle sur cette situation. Nous essayons tous de rester calmes dans le vestiaire. Nous comprenons que les Ukrainiens et nous nous sentons vraiment mal pour eux. Je suis passé par tant de moments difficiles, mais malheureusement, je ne peux pas le dire parce que, après tout, qui va croire la fille bélarusse? Plus je parle et mieux vaut que je m'arrête. Sachez donc que l'Ukrainienne qui a déclaré forfait a été victime d'une crise de panique avant d'entrer sur le court. Voilà pourquoi elle a dû déclarer forfait. Qu'est-ce que vous inspire cette histoire, Christophe Cessieux?
Bah, c'est sûr que au bout d'un moment, les tensions politiques entre les deux pays, la guerre terrible que livre Poutine à l'Ukraine, se répercute, a des répercussions dans le domaine du sport. C'est pour ça que moi, je milite plutôt pour le fait que les athlètes russes, tant que la situation n'est pas réglée, ne participent pas aux grandes compétitions sportives. On le voit en tennis, où là, les athlètes russes et les athlètes ukrainiens ont droit de concourir les uns face aux autres.
Mais on en parlait la semaine dernière en disant, ça se passe pas trop mal sur le circuit. Quand on a cette déclaration, on sent que quand on s'approche un peu plus de la vérité, si, il y a des tensions entre les joueuses.
Il y a des tensions. Alors, je sais pas quelles sont la nature de leur relation au sein du vestiaire, s'il y a eu des mots, s'il y a eu des choses échangées entre eux, mais il est évident qu'aujourd'hui, les deux pays sont en guerre totale. Et forcément, quand tu es un peu patriote et quand tu vois tes amis, ta famille se faire massacrer, bah t'as pas envie de serrer la main et de jouer contre un adversaire qui justement est le symbole du pouvoir adverse.
Mais ça donne un regard intéressant tout de même. On entend peu les Russes, les Bélarusses parler, et quand elle nous dit ça en disant après tout qui va croire la fille Bélarusse, ça tombe aussi sous le sens et on oublie parfois de le rappeler.
Oui, c'est exactement ce que là où je voulais en venir, c'est que finalement tout le monde, qu'elle soit russe ou ukrainienne, elles sont les victimes de la situation. Donc c'est un peu facile de se mettre du côté des Ukrainiens comme ça. Je parle pour le sport, en disant évidemment, les sportifs ukrainiens sont plus abîmés par cette guerre que les sportifs russes. Je suis pas sûre que ce soit vraiment excellent d'être une sportive ou un sportif russe en ce moment là. Oui, c'est un enfer, quoi.
Ok, Pascal Duprat, tu veux réagir?
Non, le seul problème pour l'athlète bélarusse, c'est justement qu'elle est du mauvais côté pour l'opinion publique, et ça doit être très difficile à vivre aussi. Mais après, faut comprendre les athlètes ukrainiens. Moi, je pense que les sportifs en sortent toujours grandis parce qu'ils ont cette capacité, cette grande tolérance. Et c'est bien que vous en parliez. C'est bien que enfin il y a quelques mots à ce sujet qui montrent que les tensions elles existent aussi chez les sportifs, même s'ils doivent en faire fi.
En tout cas, merci Pascal d'être raccord avec mon conducteur, et c'est aussi pour ça que je t'aime, sache-le.
Oui, mais je le savais ça.
Il est 10h57, on va passer à autre chose les copains, car dans quelques instants, c'est le grand bras de fer dans les grandes gueules du sport. Mbappé capitaine, pour ou contre ? Il va falloir choisir un camp. Et vous n'êtes pas d'accord, ce sera un 2 contre 2. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.